France Info.
Bonsoir à la une, Tony Parker qui met un terme à sa carrière de star internationale du basket, mais vous le verrez pas à celle de businessman aguerri. La Marseillaise sifflée en Turquie samedi, faut-il s'en indigner? Nous posons la question ce soir. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, rendra hommage jeudi aux trois sauveteurs en mer décédés, avec en question le financement de la SNSM. Nous ouvrirons une page politique également avec le discours de politique générale attendu mercredi, celui d'Édouard Philippe, et toujours le sort des Républicains. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Yasmina Jaffar.
Bonsoir.
Journaliste fondatrice du site laruchemedia.com. Invité également Geneviève Götzinger. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir.
Présidente de l'agence Image, conseil en stratégie de communication. Avec nous, les informés du lundi, François Dorcival. Bonjour François.
Bonsoir. Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et Patrice Moyon. Bonsoir à vous Patrice, chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à TV sur le canal 27 de la TNT. Il est l'un de nos plus grands champions, Tony Parker, meilleur joueur de l'histoire du basket français, star international de la NBA, a donc annoncé sa retraite à l'âge de 37 ans. Deux tweets, un en américain et un en français. Bonsoir à vous, Grégory Phillips.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous.
Correspondant de France Info à Washington, Grégory, comment les États-Unis, patrie mondiale du basket, on peut le dire, accueillent la nouvelle?
Ah ben écoutez, il y a une certitude, c'est que sans doute dans les semaines qui viennent ou peut-être à la rentrée de septembre, il va y avoir une énorme cérémonie pour retirer le maillot de Tony Parker. C'est ce qu'on fait quand un joueur prend sa retraite, et cette cérémonie se déroulera non pas à Charlotte, qui était le dernier club du basketteur français, mais à San Antonio, où il a joué quasiment toute sa carrière, quasiment ses 18 saisons en NBA. Donc on peut s'attendre à une cérémonie extrêmement importante, parce que c'est vrai que le basketteur français a aussi marqué l'histoire du basket ici et de la NBA.
Gregory Phillips, Tony Parker, non seulement est un immense sportif, mais c'est aussi un businessman aguerri sur le modèle de Magic Johnson.
Oui, alors c'est très intéressant parce que vous avez évoqué les deux tweets rédigés par Tony Parker ce soir, et puis il y a aussi une interview qu'il accorde à un site internet spécialisé dans le sport qui s'appelle The Undefeated. Et qu'est-ce que dit Parker? Eh bien, je vais me consacrer. D'abord, il dit qu'il va continuer, qu'il va retourner vivre à San Antonio, c'est important, qu'il va continuer à faire des allers-retours très fréquents avec la France, parce que vous savez qu'il est propriétaire de deux clubs de basket, oui. L'ASVEL masculin et l'ASVEL féminin. Il dit aussi qu'il va lancer sans doute en septembre son académie Tony Parker à Lyon pour former les jeunes au basket. Donc ça, c'est l'aspect businessman dont vous parliez. Et puis surtout, il donne un indice qui, à mon avis, va avoir pas mal d'écho dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, notamment ici aux États-Unis. C'est qu'il dit qu'il se verrait bien un jour manager ou propriétaire d'un club de NBA ici aux États-Unis. C'est vrai que sa vie est ici, notamment à San Antonio au Texas. Et donc il le dit clairement qu'un jour il aimerait bien acheter un club de NBA, et ce serait donc la poursuite logique de sa carrière de sportif et d'entrepreneur.
Donc il va se partager entre les États-Unis et la France. Merci. Merci à vous, Grégory Phillips. Je le rappelle, correspondant de France Info à Washington, en direct des États-Unis. Alors, je me tourne vers l'économiste Patrice Moyon, businessman, notre Tony Parker.
Oui, businessman. Alors, on sait que les sportifs aux États-Unis gagnent beaucoup d'argent. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les choix qu'il fait aujourd'hui, c'est de rendre à son pays ce qui lui a été donné. On a vu notamment récemment qu'il avait racheté une station de ski, celle de Villard-de-Lans dans le Vercors.
C'est rentable, ça, d'acheter une station de ski?
Je ne sais pas si c'est rentable. En tout cas, lui, il prend le risque. Ouais. Hein, c'est une vingtaine de remontées mécaniques, deux restaurants. On parle d'une dizaine de millions d'euros d'investis, alors que lui-même ne fait pas de ski. Mais il dit, bon, mes enfants en font, et puis moi, je veux m'investir aussi dans ce pays.
Yasmina Jaffar, vous retenez également l'image du grand champion?
Oui, et après 20 ans et 18 ans à la NBA, il se célèbre numéro 9, s'en va discrètement. Et il a toujours été quelqu'un d'assez sérieux et de discret. Il me rappelle en cela un jeune sportif, un jeune footballeur qu'on a et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Kylian Mbappé, et qui est comme ça dans cette volonté de faire d'abord du sport, dans une vraie volonté de faire plaisir à ceux qui viennent dans les stades pour les voir, et qui n'oublie jamais ce côté, en effet, très businessman, pour se reconvertir de façon intelligente, parce que ces carrières-là s'arrêtent très tôt. On le rappelle, il n'a que 37 ans et il est arrivé à la NBA, il en avait 19. Donc c'est une autre vie qui l'attend aujourd'hui. Et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un sportif comme celui-ci connu dans le monde entier.
Geneviève Götzinger, un exemple pour la jeunesse française?
Oui, absolument. D'abord, bienvenue aux milliardaires. Hein. On a besoin d'eux pour investir en France. Ça fait, plaisir. Ouais. Oui. C'est peut-être aussi l'illustration de l'attractivité de notre pays, hein, qui est plus attractif aujourd'hui en termes d'investissement que l'Allemagne. En tout cas, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le parallèle avec Mbappé. Il lui ressemble assez en termes de profil psychologique. Et bienvenue.
François Dorcival, que retenez-vous de ce passage à la vie, on va dire, businessman professionnel de Tony Parker? Le fait qu'il se réinvestisse largement en France?
Oui, mais la fortune et le sport, il l'a faite aux États-Unis.
Ouais.
Il l'a fait aux États-Unis, il rentre, et ça c'est vraiment, oui, c'est super pour nous Français. Je dois dire que l'idée qu'il a de créer une académie du basket à Lyon, c'est aussi une des cartes que vous n'avez pas citées, mais que votre correspondant a rappelé tout à l'heure. Et ça, il faut s'en féliciter. J'ajoute que, grâce à Myriam, je sais que cet immense joueur mesure 1m88.
Patrice Moyon, oui, c'est bien de le rappeler. Patrice Moyon, c'est donc l'un des sportifs français les plus fortunés de l'histoire, donc grâce à ses salaires. Et Grégory Phillips rappelait son club mythique, hein, les San Antonio Spurs, et des nombreux contrats publicitaires. C'est le lot des grands champions en général, quels que soient les sports. Donc, en tête du classement annuel publié par le journal L'Équipe entre 2013 et 2016, avec des revenus allant de 14 à 19 millions d'euros par an, il aurait de quoi s'arrêter tout net, Tony Parker.
Oui, et c'est ce que je trouve intéressant dans son parcours, parce qu'on sait bien que dans le sport de haut niveau où on peut gagner beaucoup d'argent, il y a parfois la tentation de flamber. Et donc là, il investit. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Allez, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de Tony Parker, qui va donc partager son activité entre la France et les États-Unis, comme le rappelait à l'instant Grégory Phillips. 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Emmanuel Macron présidera jeudi une cérémonie d'hommage aux trois marins sauveteurs morts au Sable d'Olonne en fin de semaine dernière. Il a déjà annoncé samedi qu'il les décorait de la Légion d'honneur à titre posthume. Aujourd'hui, l'hommage était populaire. 15 000 personnes réunies entre silence et applaudissements pour saluer le courage et la mémoire des bénévoles de la SNSM. Latifa Ebenziaten dépose plainte pour apologie du terrorisme, menace de mort et violation de domicile. La mère de la première victime de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse, a découvert des tags sur les murs de sa maison, des inscriptions antisémites et des menaces de mort. Son avocate demande une protection renforcée au ministère de l'Intérieur. C'est une première messe pour rappeler au monde que la cathédrale est toujours vivante. Le recteur de Notre-Dame de Paris, Patrick Chauvet, se réjouit sur France Info de l'office à venir dès le week-end prochain. Ce sera donc deux mois pile après l'incendie. Un office en tout petit comité. Les religieux et les fidèles présents devront même porter un casque de chantier. 5 sont prêts à un no deal. Les 5 autres veulent à tout prix éviter un Brexit sans accord. Il y a 10 prétendants à la succession de la première ministre Theresa May en Grande-Bretagne. 8 hommes et 2 femmes qui avaient jusqu'à 18h ce soir pour se déclarer. Le favori Boris Johnson est favorable à un Brexit dur si l'Europe n'accepte pas de renégocier les conditions de sortie du Royaume-Uni. Et puis un match nul 0-0 entre l'Argentine et le Japon. C'était le premier match du jour de la Coupe du Monde féminine de football. À 21h, le Canada affronte le Cameroun. Et le prochain match des Bleus, ce sera mercredi soir à Nice contre la Norvège.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Les sifflets samedi soir pendant l'hymne national en levée de rideau du Turquie-France, c'est au stade de Konya, en qualification de l'Euro 2020 de football, était-il inacceptable? Comme l'a dit le président Emmanuel Macron, le chef de l'État s'est ému en tous les cas de cette bronca contre la Marseillaise et contre les Bleus, mais visiblement pas Noël Grette. Était présent à Konya samedi soir. Le président de la Fédération française de football répondait à Marc Fauvel sur France Info ce matin.
Très franchement, c'est pas seulement la Marseillaise, c'est une erreur de considérer que l'hymne a été sifflé. Un certain nombre de Turcs ont sifflé les joueurs pendant toute la partie. Pour ceci, je tiens à préciser que les dirigeants qui étaient tout près de nous étaient gênés, qu'on a été parfaitement bien accueillis pendant toute cette rencontre. Pour moi, il n'y a pas d'incident.
Geneviève Götzinger, pas d'incident selon vous?
Énorme incident, et bien sûr on va toujours s'indigner quand la Marseillaise est sifflée. Je comprends pas sa remarque en fait. C'est pas parce que les joueurs sont empêchés de jouer, parce que clairement la Marseillaise a été sifflée, ce qui est déjà extrêmement grave, mais en plus les joueurs ont été sifflés à chaque passe en fait, à chaque fois qu'ils s'exprimaient. Certains d'entre eux ne s'entendaient même pas sur le terrain, donc ce qui s'est passé est gravissime, et c'est le reflet de, je dirais, des relations assez exécrables qui existe en ce moment entre la France et la Turquie.
Patrice Moyau, on vient d'entendre à l'instant le patron de la 3F, Noël Le Graët, qui dit au fond que les dirigeants du football turc présents à ses côtés, je le cite, étaient gênés, donc il y avait un problème en fait.
Oui, enfin, en tout cas, lui ne veut pas se fâcher avec ses homologues turcs. Et pour ceux qui en doutaient encore, on voit que le nationalisme a de beaux jours devant lui, que partout il repart du plus bel, y compris en Turquie. Et je trouve que c'est pas faire honneur à une ville, Konya, où est enterré Rumi, l'un des plus grands poètes soufis, qui était justement un homme d'une très grande tolérance.
Oui, mais Yasmina Jaffar, Emmanuel Macron a fait part de son mécontentement au patron de la fédération, selon l'Élysée, hein, c'est l'Élysée qui nous renseigne là-dessus. Visiblement, ça n'impressionne guère Noël Le Graët.
Oui, vu ce qu'il dit, pas grand-chose l'impressionne, mais Emmanuel Macron a totalement eu raison de réagir. Il ne faut pas simplement s'indigner, il faut sanctionner, c'est insupportable. Et il y a eu un papier dans le HuffPost qui indiquait, non pas les réactions d'Emmanuel Macron, mais celles de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, comme si cette affaire-là ne les concernait qu'eux. Mais pour une fois, la seule fois, je serais d'accord avec ces deux personnages-là, et je dirais que le drapeau et la France, et reprendre la phrase d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, l'art d'être français, ça commence là. Et ça commence là, et ça s'explique aussi à Monsieur Le Graët, pas de nationalisme bête, mais en tout cas, la volonté de défendre notre drapeau, notre pays, et il n'est pas question qu'on siffle ni la Marseillaise, ni autre chose.
Qui a tweeté juste après les sifflets, siffler un hymne national, en l'occurrence la Marseillaise, est toujours une honte, a-t-elle écrit, un affront et l'inverse des valeurs de fair play. On attend de la FIFA qu'elle sanctionne la fédération de foot turque pour le manque de respect du public turc ce soir. Donc c'était samedi, juste après les sifflets. François Dorcival, vous êtes...
Au moins c'est clair,
oui.
Au moins c'est clair, parce que au fond les supporters turcs se sont livrés à deux insultes. Une insulte à la France à travers la Marseillaise et une autre aux joueurs. Et dans les deux cas, c'était l'équipe de France et c'était la France. Et donc, ça a évidemment une signification. Vous avez dit tout à l'heure, Geneviève, que cela dénotait le caractère exécrable de nos relations actuelles avec la Turquie. Probablement, Ankara veut-il nous faire porter l'état des relations qui sont celles de la Turquie avec l'Union européenne. Mais au moins, ça met d'une certaine façon un terme à toute discussion sur l'intégration, la négociation, le rapprochement de la Turquie avec l'Union européenne. Mais ça pose aussi un problème plus loin. C'est que nous avons sur notre sol une communauté turque importante, notamment dans l'est de la France et à Strasbourg, où elle est en train de préparer une mosquée d'une très grande dimension. Or, cette communauté-là a-t-elle envie de s'intégrer sur le sol français? Eh bien, ça n'est pas sûr. Et le signal qui vient d'arriver de Turquie est très désagréable.
Vous y voyez un signal négatif. Alors, il y a eu deux approches ce matin, celle de Noël Le Graët et puis celle aussi des proches du chef de l'État. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse sur BFM TV, qui a maintenu, lui, le message, on va dire, de fermeté d'Emmanuel Macron.
C'est inadmissible ce qui s'est passé. On siffle pas l'hymne d'un pays, encore plus à l'occasion d'un match de football. Emmanuel Macron a demandé des explications. La fédération, la FIFA a annoncé que la fédération turque s'était excusée. Il faut voir maintenant si des sanctions ont lieu. Mais je pense que c'était important de marquer le coup et de passer le message qu'on peut pas accepter, ça.
Geneviève Götzinger, il y a évidemment éminemment l'aspect un peu géopolitique de cette affaire. Est-ce qu'il faut aussi des rappels à l'ordre, du moins, ou des sanctions, voire des sanctions au niveau footballistique?
Ça serait normal, parce que c'est encore une fois inacceptable. Donc ça, c'est la FIFA ou l'UEFA, d'ailleurs, je crois d'ailleurs plutôt, parce que c'est un match européen qui doit prendre ses sanctions. Ça serait logique. On peut pas en rester juste aux déclarations d'intention, aux déclarations de colère. Il faut que ça aille plus loin parce que c'est effectivement inacceptable.
Patrice Moyon, Konya, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a ce contexte régional, on va dire. C'est un fief du président Erdogan.
Oui, c'est un fief. C'est une grande ville d'Anatolie. Et je pense que effectivement, à travers ce match, c'est aussi cristallise les relations internationales aujourd'hui et qui sont très mauvaises entre l'Union européenne et la Turquie. Et
François Dorcival, je reviens vers vous parce qu'au fond, ce que dit Noël Le Graët également, c'est que quelque part, il a une sorte d'habitude, est-ce que c'est pas une mauvaise habitude, d'entendre l'équipe de France siffler, ou d'autres équipes d'ailleurs nationales, siffler dans les stades de football. Est-ce que c'est pas devenu finalement une pratique des publics, des supporters?
Eh bien, ce serait une
il faudrait pratique. Qu'il faudrait relativiser.
Oui, mais non, la question est de savoir si... Les supporters turcs sifflent systématiquement toutes les équipes qu'ils affrontent et les pays qu'ils affrontent, ou si cela s'adresse spécialement à la France. Et donc, dans ce cas, ce serait encore frappé d'un degré supplémentaire de gravité.
Parce qu'il y a eu le précédent, on va dire historique, hein, Yasmine oui. Jaffar, nous sommes en mai 2002, c'est la finale de la Coupe de France, on est au Stade de France, c'est Lorient-Bastia, c'est Lorient qui l'emporte d'ailleurs, et Jacques Chirac s'éclipse, justement parce que la Marseillaise est sifflée, mais ça se passe sur notre sol, et quelque part, cette attitude du chef de l'État était justifiée Fiante. À l'époque.
Oui, mais en effet, là, avec plus de fermeté, et on est dans une autre époque, 2002, c'est très très loin, les rapports sont pas du tout les mêmes aujourd'hui,
et Emmanuel Macron n'est pas... Il s'agissait pas des Turcs, hein.
Oui, exactement. Bien et Emmanuel sûr. Macron n'est pas une personne qui se laisse faire, on le sait maintenant, et qui va, je pense, aller plus loin, je suis d'accord avec Geneviève, je pense très clairement qu'on ne va pas en rester là, parce qu'il faut aussi lancer des messages, et le sport est d'abord un outil de loisir, pas forcément un outil politique, mais s'il doit être utilisé comme tel, alors allons au bout du processus et vraiment faire plus fort que ce que disait Gabriel Attal. Marquer le coup, non, pas marquer le coup, imposer des sanctions très claires pour que ça ne se reproduise jamais.
Geneviève Götzinger, pour clore le débat, c'est un sujet au fond éminemment politique, parce que oui, regardez les personnalités les plus diverses, Macron-Le Pen s'en empare. Hein.
C'est des relations très dures quand même en ce moment entre la France et la Turquie qui ont encore été durcies par cette cérémonie à l'occasion de l'anniversaire du génocide arménien au cours de laquelle le président Erdogan était absolument furieux et a osé comparer le génocide arménien et l'attitude de la France avec l'Algérie ou de la France et du Rwanda en expliquant qu'on avait été nous-mêmes des alliés de génocidaires. Donc les relations sont vraiment extrêmement tendues, mais ça ne justifie pas, encore rien ne justifie que sur un terrain de sport, on puisse comme ça huer un hymne national.
Absolument, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous Jules Dekis.
On vient de l'apprendre, un hélicoptère s'est écrasé il y a quelques minutes sur un immeuble de New York. L'événement s'est produit en plein centre, à Manhattan, d'après les pompiers de la ville. Il a 20 ans, n'a pas le permis de conduire, il a déjà été condamné pour conduite sans permis. Les enquêteurs ont aujourd'hui identifié le chauffard qui a percuté deux enfants sur un trottoir de Lorient hier soir. Il est toujours en fuite, tout comme la jeune femme qui l'accompagnait. L'un des garçons de 10 ans est mort dans l'accident, l'autre de 7 ans est toujours hospitalisé dans un état grave. Ils étaient il y a quelques jours encore dans des camps du Kurdistan syrien. 12 enfants de djihadistes français viennent d'être rapatriés en France. Ils ont de 1 à 12 ans, tous ne sont pas orphelins. Des juges des enfants de Versailles vont maintenant enquêter sur leurs grands-parents pour savoir s'ils leur confient la garde. 95 morts et 19 disparus, dernier bilan connu après l'attaque d'un village d'Ogon dans le centre du Mali la nuit dernière. La zone est le théâtre d'un conflit ethnique depuis que les djihadistes recrutent des éleveurs peuls pour en faire des terroristes. Les chasseurs d'Ogon en sont régulièrement victimes et lancent des attaques en représailles. C'est avec une grande émotion qu'il dit mettre un terme à sa carrière. Le basketteur Tony Parker quitte donc les parquets. Le meneur de l'équipe de France aura joué 18 ans en NBA. Il a surtout marqué de son empreinte les Spurs de San Antonio, avec lesquels il a été 4 fois champion des États-Unis.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, et cet auditeur qui nous écrit à l'instant pour nous rappeler à propos des sifflets contre la Marseillaise que les Turcs, nous dit François, nous font aussi payer la commémoration officielle du génocide arménien.
C'est ce que vient de rappeler Geneviève.
Voilà, donc vous voyez, c'est un sujet qui vous fait éminemment réagir. 15 000 personnes se sont recueillies aujourd'hui au Sable d'Olonne pour saluer la mémoire des 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi, vous le savez, en portant secours à un chalutier en détresse. L'Élysée a fait savoir en fin de journée qu'Emmanuel Macron présiderait ce jeudi matin, une cérémonie en la mémoire des 3 sauveteurs décédés et en l'honneur des gens de mer. Le sauvetage en mer devrait être une mission régalienne, c'est ce qu'a expliqué Chantal Guier, Elle est ancienne députée socialiste du Finistère, auteure en 2016 d'un rapport sur la question qui avait été commandée à l'époque par le gouvernement de Manuel Valls. Elle était interrogée samedi sur France Info au lendemain du drame.
C'est une association qui vit essentiellement avec l'argent des donateurs, 80%, alors qu'ils font une mission de sauvetage en mer, qui est une mission régalienne. Moi, j'ai toujours estimé que l'État ne participait pas assez. À l'époque, c'était que 2 millions sur un budget de 30 millions. Ils ont fait quelques efforts à la suite de mon rapport, mais moi je demandais que ça soit porté à 25%, ça l'est toujours pas.
Alors Yasmina Jaffar, il est très important évidemment de rendre hommage à ces personnes disparues, décédées parce qu'elles voulaient sauver ce marin pêcheur, mais il y a aussi au fond l'aspect économique du sauvetage en mer, et là il y a du travail.
Exactement, 80% de dons plutôt privés sur un travail qui doit être une mission régalienne, il y a là une forme de démission presque honteuse. 9000 personnes sont sauvées par an sur 20000 interventions, certes, mais ça n'est pas à une équipe quasiment privée de s'occuper de ça, avec des formations qui ne sont faites que par 400 heures, c'est pas beaucoup. Il y a 32 centres de formation en France. On est apparemment pas comme les Anglais où on a l'habitude des eaux parce que c'est une île. C'est une vieille tradition. Nous, on n'est pas peut-être forcément fort dans le sauvetage en mer, mais en tout cas, le droit de la mer fait qu'aujourd'hui, on doit poser des questions sur cette idée et qu'Emmanuel Macron fasse un événement jeudi de la même manière qu'on a pensé aux soldats morts à Burkina Faso très récemment. Oui, ça doit se mettre sur le même plan parce qu'il y a une forme de culpabilité à ne pas laisser tomber les uns pour les autres, l'État doit protéger tous les citoyens français.
Patrice Moyan, vous estimez que cet hommage national doit être suivi peut-être d'initiatives, voire d'annonces ?
Oui, alors cet hommage national, il est justifié. Hein, c'est rendre hommage aux 8000 bénévoles qui sont prêts à risquer leur vie pour venir au secours de gens qui sont en détresse. Mais effectivement, la question du soutien public à la SNSM est aujourd'hui bien posée et il faudrait que l'État agisse réellement. La SNSM est actuellement dans un renouvellement de sa flotte. Xavier Delagorce, qui préside la SNSM, disait 35 ans, c'est un bon âge pour le rhum, c'est pas forcément un bon âge pour les navires de la SNSM. Et je pense qu'il a raison. Donc, c'est bien que cette action repose sur des bénévoles, mais il faut qu'il y ait un soutien plus important de la part de l'État.
Parce qu'on a vu ces images de ce bateau fracassé, brisé, dont on a retiré les restes, si je puis dire, avec des grues sur le littoral. Est-ce que ces moyens ne semblent pas dérisoires aujourd'hui, au regard de la mission qui incombe au sauvetage en mer ?
Oui, la SNSM aurait besoin de moyens supplémentaires en formation, en navire. Il faut que l'État. Il y a un bénévole qui disait récemment, on en est réduit à faire des cagnottes pour trouver des financements.
Geneviève Götzinger,
un attachement quand même de la SNSM à ce bénévolat. Oui, et est-ce que ça reste majoritairement du bénévolat
Bénévolat qui existe dans le corps des sapeurs-pompiers également. Il y a des pompiers volontaires.
Oui. Après, il faudrait peut-être aussi faire des efforts en matière de prévention. Parce que quand on voit tous les étés, comme ça, des personnes sortir en mer avec des petits bateaux, des petits bateaux de plaisance, notamment sur la mer Méditerranée, où le temps change très vite, et on le sait. Et finalement, ensuite, des bénévoles vont mettre leur vie en danger. C'est l'altruisme absolu pour aller les sauver. Il faudrait peut-être former davantage au risque de la mer.
Surtout que la formation n'est pas forcément adéquate.
Vous voulez dire former les
prévenir, personnes
oui.
Prévenir.
Les métiers de la mer sont déjà formés quand même. Des marins pêcheurs sont souvent guéris.
Non, je parle prévenir ceux qui vont sortir avec leur prévention. Petit bateau et ensuite venir se faire sauver par des bénévoles qui, eux, vont mettre leur vie en danger.
François Dorcival, on a entendu Chantal Guillet tout à l'heure qui parlait d'une mission pour le compte du gouvernement. Il y a 3 ans, apparemment, les choses n'évoluent pas.
Les choses n'évoluent pas, mais ce qui doit évoluer, c'est le sentiment de responsabilité. Responsabilité du marin-pêcheur qui est sorti alors que nous étions en tempête. Et responsabilité qui, en face, est exercée par ces bénévoles. Le mot bénévole ne signifie pas incompétent. Au contraire, ce sont des bénévoles extrêmement entraînés, extrêmement engagés, extrêmement courageux, et je pense que s'il y a hommage national pour eux, c'est précisément pour mettre ces qualités-là en valeur. Et je vous assure que l'entraînement qui est le leur n'est pas de la blague. Mais j'ajoute un point de détail. Les trois qui ont disparu, vous avez vu leur âge ? Il y en a un qui a 34 ans, Les deux autres avaient plus de 50 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui se dévouent à ce métier-là, comme effectivement les sapeurs-pompiers non militaires à Paris ou à Lyon ou à Marseille, nous avons des sapeurs-pompiers militaires en casernés. Ça n'est pas le cas de l'ensemble des sapeurs-pompiers sur le territoire national. Eh bien, ils tiennent à la Société nationale de sauvetage en mer à ce statut. J'ajoute que naturellement, ce sont aussi des marins qui sont à leur tête.
Allez, à 20h28 sur France Info, nous marquons une pause dans les informés. On se retrouve dans quelques minutes pour une page très politique. À tout de suite.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export, un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, man gete de Marc. Commercial même avec la baguette. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Je l'utilise pas mal par ici.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Une journée perturbée demain entre les Pyrénées, la Méditerranée, le Nord-Est, un ciel gris et pluvieux souvent dès le réveil, de la neige sur les Pyrénées vers 1800 mètres. La Côte d'Azur devrait rester à l'écart avec des éclaircies, du soleil pour la Corse, mais un risque d'averses orageuses en montagne l'après-midi. Sur le reste du pays, ce sera bien nuageux, parfois avec des nuages bas le matin, des averses déjà présentes sur la Bretagne. L'après-midi sur le Nord-Ouest, ces averses seront nombreuses et orageuses. Il fera frais, 6 à 12 degrés le matin, jusqu'à 19 à Nice. L'après-midi, 14 à 20 degrés le plus souvent, un peu plus sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, avec 21 à 26 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. Un hélicoptère s'est écrasé il y a moins d'une heure sur le toit d'un immeuble à New York. C'est un immeuble de 51 étages situé sur la 7e avenue entre la 51e et 52e rue à Manhattan. Le ciel est bas et pluvieux sur New York. Pas de bilan précis pour l'instant. D'importants secours sont sur place. Le gouverneur de New York vient d'expliquer que l'hélicoptère avait tenté un atterrissage d'urgence. L'incendie lié au crash est maîtrisé. Il n'y a pas de blessés dans l'immeuble. Quelques personnes ont été évacuées. Il pourrait cependant y avoir des victimes dans l'hélicoptère. L'attaque d'un village dans le centre du Mali a fait près d'une centaine de morts la nuit dernière. Bilan encore provisoire des autorités locales dans cette zone prise en étau entre la menace djihadiste et les conflits intercommunautaires. Des conflits qui ont déjà fait plus de 250 morts civiles depuis le début de l'année. Emmanuel Macron va présider jeudi au Sable d'Olonne une cérémonie d'hommage aux trois sauveteurs décédés en mer vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse en pleine mer. Annonce faite par l'Élysée quelques heures après la marche silencieuse qui a rassemblé ce matin plus de 15 000 personnes au Sable d'Olonne. 12 orphelins français de famille djihadiste dont le plus âgé a 10 ans ont été rapatriés aujourd'hui à Paris. Initialement recueillis dans un camp de déplacés en Syrie, ils ont été remis hier à une délégation française venue les chercher sur place. Parker arrête le jeu. À 37 ans, le plus grand joueur de basket français de tous les temps met un terme à sa carrière. 4 fois champion NBA avec les Spurs de San Antonio, champion d'Europe aussi avec les Bleus de l'ancien sélectionneur Claude Bergeau.
Il est évident au regard de ses titres, au regard de la notoriété et de ce que sa carrière a eu comme impact sur le basket français, il est évident que c'est celui qui est de loin devant les deux autres monstres qui étaient Alain Gilles bien avant lui et juste après Antoine Rigaudot. Tony aura marqué par sa compétitivité, par la longueur de sa carrière, parce que la monstruosité, c'est toutes ces années de NBA. où il n'y a pas 50 matchs par an, mais presque plus ou moins 100 matchs par an. Et ensuite, le rayonnement qu'il a pu avoir pour notre sport.
Voilà l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket, Claude Bergeot, après l'annonce donc de la fin de carrière de Tony Parker. Le mondial féminin de football, les Bleus sont à Nice avant leur match contre la Norvège mercredi. Cet après-midi à Paris, le Japon et l'Argentine ont fait match nul 0-0. 20h33, les informés sur France Info, Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Les informés, deuxième partie avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image avec 2G, conseil en stratégie de communication, François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, et Patrice Moyon, chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest France. C'est un petit peu... Allez, l'information politique de la soirée, la présidente du groupe Les Républicains à la mairie de Paris, Florence Berthoud, que l'on voit souvent régulièrement sur France Info, que l'on entend souvent, annonce qu'elle quitte à son tour eh bien, le parti Les Républicains, c'est quand même une élue historique de LR, et qu'elle soutient Emmanuel Macron. Elle le dit dans une interview que publie le site du Figaro. « Je quitte la famille des Républicains, même si l'on ne s'éloigne pas sans douleur d'un mouvement dans lequel on a toujours milité », confie Florence Berthoud. En tous les cas, ce départ que vous allez commenter dans quelques instants s'inscrit, vous savez, dans la liste des 72 maires et élus locaux LR, signataires de cette tribune en soutien à Emmanuel Macron, paru hier dans le JDD. Je vous propose d'écouter ce que a dit Arnaud Péricard. Il est le maire de Saint-Germain-en-Laye. Il était l'invité de RTL ce matin. Si la droite quitte LR pour soutenir Emmanuel Macron, c'est parce que, dit-il, eh bien, la politique du gouvernement est clairement aujourd'hui à droite.
La droite, elle gouverne aujourd'hui parce que Édouard Philippe, c'est un homme de droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Franck Riester, ce sont des élus de droite et ce sont des gens qui portent justement ces valeurs de droite au sein du gouvernement. Donc je suis pas inquiet pour l'avenir de la droite et je ne réduis pas la droite à simplement une formation politique.
Voilà Arnaud Péricard, le fils de Michel Péricard, ancien député maire, gaulliste historique de Saint-Germain-en-Laye. Yasmina Jaffar, le départ de Florence Berthoud vers Emmanuel Macron, qui quitte LR alors qu'elle était quand même un pilier parisien de ce parti, c'est une de plus.
Oui, c'est une hémorragie qui ne fait que commencer. Et c'est vrai qu'il va y avoir, on va en parler tout à l'heure, le discours général de la politique générale d'Édouard Philippe. Et on se rend bien compte que l'acte 2, qu'ils aiment appeler comme ça désormais, va être plutôt à droite avec des réformes qui vont être très claires et nettes autour de du chômage, de la retraite, et qui va porter vraiment toutes les indications possibles pour dire que la deuxième droite qu'on cherchait à gauche ne la cherche plus du tout. Elle est aujourd'hui à droite et il l'assume totalement. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est un duo qui s'entend plutôt bien. Et Édouard Philippe porte cet emblème-là du dernier LR qui pourrait être intéressant, ouais, pour les gens d'En Marche, d'autant qu'Édouard Philippe n'a pas pris sa carte d'En Marche. Donc il y a vraiment une mixité, un métissage très fort, assumé de la part du président de la République qui se montre là un Machiavel assez intéressant.
Alors Geneviève Götzinger, pour poursuivre ce qu'évoque à l'instant Yasmina, ouais, Jaffar, ce que dit Florence Berthoud dans l'interview au Figaro, du moins sur le site du Figaro, elle dit, elle, que les Républicains subissent un rétrécissement idéologique, avec notamment le positionnement personnel sur la loi Veil. Il n'y aurait donc pas seulement des considérations électoralistes
quant à... Florence Berthoud n'a jamais été parmi les plus progressistes des Républicains, pardonnez-moi. Donc là, il y a une vraie angoisse de la droite parisienne, garder ses sièges. Enfin,
vous pensez qu'il y a une visée clairement électoraliste derrière cette démarche
qui avait commencé avant les européennes, avec déjà le ralliement d'un certain nombre d'élus, d'un certain nombre d'arrondissements de Paris, à l'époque à Pierre-Yves Bournazel, donc candidat d'Agir, en espérant, en s'arrimant un petit peu à la majorité présidentielle, sauver leur poste. Donc c'était le cas par exemple de Claude Goasguen, déjà, qui... En s'arrimant à Pierre-Yves Bournazel, on sauvait nos postes. Alors là, ça va effectivement plus loin avec Florence Berthoud, qui, elle, est une vraie élue de droite, et ce ralliement est clairement électoraliste. Après, il y a d'autres élus comme la maire du 9e arrondissement qui, elle, a toujours été beaucoup plus progressiste. Et son ralliement à Emmanuel Macron, je parle là d'Elfyn Burkly, n'est pas quelque chose d'électoraliste. Mais pour ce qui concerne tous ces maires LR qui sont en train aujourd'hui de jouer une espèce de sauve-qui-peut en rejoignant La République En Marche, ils semblent faire totalement fi du poids de l'implantation locale. Les élections européennes, c'est pas des élections municipales. Et ils auraient peut-être tort de se précipiter trop vite dans les bras d'Emmanuel Macron.
C'est ce que dit d'ailleurs aussi, c'est ce que soutient un élu francilien, c'est Jacques Myard, que l'on connaît bien, ancien député, qui est le maire Les Républicains de Maisons-Laffitte, qui dans un communiqué aujourd'hui titre « Intox au bal des girouettes », c'est un titre de polar quasiment. Il écrit, Jacques Myard, que le ralliement, vous savez, des 72, qui était déjà plus ou moins parti de LR, il faut le reconnaître, à la Macronie, dit-il, est un pari risqué, cela rejoint ce que vous avancez, car il s'appuie sur les résultats des élections européennes qui, contrairement à ce que pensent les esprits pressés, n'ont jamais déterminé les élections suivantes. Patrice Smoyon, certains élus prennent-ils des risques ?
Ce qui est certain, c'est que la recomposition du paysage politique français n'est pas achevée. Mais on voit un Emmanuel Macron qui, d'une certaine façon, se giscardise. Donc, une partie des élus de centre-droit, finalement, se retrouve assez volontiers dans les options économiques aujourd'hui qui sont celles du gouvernement, avec Bruno Le Maire et avec Édouard Philippe qui joue la carte de la séduction. Et les Républicains qui ont essayé de jouer la carte du Rassemblement national, et en fait les élus du les Français en fait préfèrent l'original à la copie, donc la base des Républicains est en train de se réduire.
François Dorcival, vous partagez ce point de vue?
Alors, je crois qu'il faut distinguer la situation de Paris de la situation nationale. Distinguer la situation de Paris parce que Paris a vu un déferlement, et ceci depuis 2017, de tout ce qui est En Marche, c'est-à-dire d'une bourgeoisie centre-droit. Diffusion, cette implantation, s'est notamment développée à l'occasion du scrutin européen, où l'on a vu, en effet, le 16e arrondissement basculer, etc. Donc, distinguer Paris. Et vous avez raison d'insister sur le cas de Florence Berthoux, qui est maire du 5e arrondissement, historiquement de droite depuis bien longtemps. Et on disait, il y a quelques mois, qu'elle était une des possibles candidates à la succession, donc candidate contre à la succession de Anne Hidalgo. Aujourd'hui, nous constatons que, sauf Rachida Dati, il n'y a plus de candidat de droite ou de centre-droite qui soit candidat contre Anne Hidalgo. Et donc, cette situation-là est caractéristique d'un basculement. Alors, le reste de la France, ben là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Patrice sur l'implantation locale qui était évidemment la clé de tous ces scrutins.
Allez, on va rester sur la tectonique des plaques. 20h40 sur France Info. On marque quand même une pause avec le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Un hélicoptère s'est écrasé il y a moins d'une heure sur le toit d'un immeuble d'une cinquantaine d'étages à Manhattan, en plein centre de New York. Information des pompiers de la ville, des dizaines de véhicules de secours et de police se trouvent au pied du bâtiment, mais on ignore pour l'instant s'il y a des victimes. L'appareil aurait tenté un atterrissage d'urgence, d'après le gouverneur de l'État de New York. Un rassemblement de 15 000 personnes, une marche silencieuse, des applaudissements pour tous les bénévoles de la SNSM. Les habitants des Sables-d'Olonne ont aujourd'hui rendu hommage aux trois marins sauveteurs bénévoles morts en mer lors d'une opération vendredi. Jeudi, Emmanuel Macron présidera une journée d'hommage national dans la commune vendéenne. Comme le Parlement européen l'a déjà décidé, le Canada va interdire tous les objets plastiques à usage unique dès 2021. Adieu les sacs plastiques, les sacs poubelles, les gobelets à café, promet le Premier ministre Justin Trudeau. Il fait de l'écologie une de ses priorités avant des élections législatives à la fin de l'année. Daniel Riolo et Jérôme Rotten sont suspendus par RMC après leurs propos sexistes de la semaine dernière. Les deux chroniqueurs football s'en étaient pris à la femme qui accuse Neymar de viol, s'interrogeant sur sa beauté. Avant leurs excuses, dimanche, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a saisi le CSA. Guillaume Martin, deuxième, Thibaut Pinot, quatrième. Des places d'honneur aujourd'hui pour les cyclistes français sur le critérium du Dauphiné. Deuxième étape remportée par le Belge Dylan Teuns.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Geneviève Götzinger, vous voulez répondre à François Dorcival?
Oui, je voulais juste répondre sur votre dernière phrase. Il n'y a pas de candidat issu de la droite ou du centre-droit à Paris. Il y en a quand même deux, en fait. Il y a Pierre-Yves Bournazel, très clairement d'Agir, qui est quand même quelqu'un qui vient de la droite jupéiste. Et puis, il y a quelque part Hugues Granson, qui est rallié au macronisme depuis 2017, mais qui est un ancien chiracien.
Oui, alors, vous avez raison, mais ça ne fait que confirmer l'idée que, pour la droite parisienne, celui qui peut envisager de battre Anne Hidalgo, c'est évidemment quelqu'un qui aura le soutien du président de la République. Jusqu'à, d'ailleurs, envisager l'idée que ce puisse être Édouard Philippe.
Alors, cette histoire n'est pas terminée, évidemment, ça va bouger en termes d'alliance dans la capitale, mais au niveau national, en attendant, ce mouvement de départ de républicains va-t-il s'amplifier? Écoutez ce qu'en disait ce matin Geoffroy Didier, réélu, vous le savez, eurodéputé, il était l'invité de France Info.
Je pense que Emmanuel Macron fait des bonnes choses, et d'ailleurs, lorsqu'il va dans le bon sens, je n'hésite pas à le soutenir et à le dire publiquement, et ça a pu être le cas depuis le début de son quinquennat. En revanche, je crois que la droite républicaine ne doit pas chercher à s'opposer à lui systématiquement, et il faut arrêter d'ailleurs avec cette habitude qu'a eu la droite par le passé de l'obstruction. Il faut qu'elle fasse mieux qu'Emmanuel Macron.
Yasmina Jaffar, faire mieux, dit-il, qu'Emmanuel Macron, dit Geoffroy Didier. Est-ce que c'est pas un aveu, une sorte de soutien presque implicite?
Totalement.
Au chef de l'État? C'est compliqué de faire mieux. Enfin, ça veut dire qu'on fait pareil.
Oui, complètement. Et quand on parle de la copie et de l'original, là, très clairement, on sent bien que Monsieur Didier lance aussi des sirènes et des appels. Peut-être qu'il va être séduit aussi pour aller vers la République en marche. Mais non, faire mieux, non. L'idée, c'est... La lucidité est intéressante, c'est qu'il dit... On s'est opposé systématiquement et ça nous a pas aidé et ça a été un peu ridicule, même en permanence, même sur des propositions qui étaient clairement possibles qu'elles viennent de LR, s'opposer directement n'avait aucun sens. Donc aujourd'hui, non, il s'agit pas de faire mieux, c'est de reconstruire une ligne, un objectif, trouver un cadre et trouver une personnalité suffisamment forte pour incarner une droite qui existe. De toute évidence, elle existe, elle n'est pas morte, mais elle continue à être mangée et cooptée par Emmanuel Macron. Mais il faut arriver à non pas jouer les mêmes armes que lui, mais à trouver une autre façon de répondre à cette demande des Français, parce que de toute évidence, et c'est très juste, les élections européennes ne sont pas les élections nationales ni municipales, et on va s'en rendre compte très vite. Il y a 572 villes de droite en France.
Oui, il y aura des cas
particuliers
à chaque fois, dans chaque
exactement, il ne faut pas mélanger et confondre les scrutins.
Mais Patrice Moyon, vous évoquez tout à l'heure, pardon pour ce néologisme, la giscardisation de la vie politique française, grosso modo.
Moi je crois profondément qu'un certain nombre d'élus aujourd'hui pense que Emmanuel Macron est tout à fait compatible avec la droite. Donc la droite, c'est probablement pour un certain nombre d'élus Emmanuel Macron aujourd'hui.
Oui, non mais enfin, en particulier la gauche le dit de plus en plus. Ne serait-ce que pour essayer de se reconstituer
elle-même. Voilà, exactement, pour se démarquer.
François Dorcival, Geoffroy Didier a dit autre chose ce matin sur France Info. Il a appelé la droite à, je le cite, à se moderniser, non pas la modernité comme une idéologie ou une fin en soi, mais comme une acceptation, une régulation, une évolution de la société. Autant dire que le socle idéologique de base de ce que sont les républicains aujourd'hui dérange certains de ses cadres.
Oui, enfin, Geoffroy Didier... Mais il faut bien se dire une chose, c'est que à force de mépriser ceux qui sont à côté de vous, on les éloigne, on s'en écarte, et en définitive, on ne fait que diviser le reste de force dont on dispose. Donc je leur suggère vraiment de commencer par analyser les causes de leur défaite, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils refusent de se faire, et au contraire, ils ont des a priori sur tout.
Les causes de la défaite, selon vous, quelles sont-elles essentiellement ?
Qu'ils aillent chercher chez les électeurs les causes de leur échec.
Et quelles
d'abord
sont
les électeurs.
Quelles sont les causes ?
Et ensuite,
quelles sont les causes, François Dorcival ?
Les causes simplifiées ne sont pas suffisantes pour expliquer ce qui s'est passé le 26 mai. Encore une fois, les causes simplifiées sont... Pour la droite, l'idée qu'il faut que Emmanuel Macron continue à pouvoir faire, avec l'autorité nécessaire, les réformes qu'il a engagées, notamment à l'éducation nationale, mais pour les retraites et l'assurance chômage. Donc ça, c'est une idée générale. Et l'autre idée de ceux qui sont allés au Rassemblement national, c'est de dire, mais attendez, moi, je ne peux pas supporter le virage de la société tel qu'il se fait aujourd'hui. Or, j'ai le sentiment, disent ces électeurs-là, que Macron n'est pas en mesure de bloquer ça.
Geneviève Göttinger.
Si ça, c'est incompatible, ces deux droites se font la guerre jusqu'au bout.
Tout à l'heure, nous évoquions Édouard Philippe. On va dire quelques mots. On va évoquer le discours de politique générale qui est attendu mercredi. On verra d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Bon, on ne le sait pas ce soir, évidemment. Mais Geneviève Göttinger, Édouard Philippe, qui n'a, comme le rappelait Yasmina Jaffar, toujours pas pris sa carte au sein de La République En Marche, est-ce que cela dessine une sorte de droite satellite qui est en train de
s'installer? C'est le nouvel homme fort. C'est le nouvel homme fort de la Macronie. Mais je vais être très, très humble. Et je pense qu'il faut tous qu'on soit très humble. Parce que si on avait été autour de cette table tous ensemble une semaine avant les européennes, ce qu'on aurait dit, c'était que c'était dur pour Édouard Philippe, que le président de la République réfléchissait à une alternative, que la dynamique était cassée au sein de l'équipe gouvernementale, que tout le monde le rendait responsable d'une certaine cassure entre le président de la République et le peuple. On aurait tous dit ça. Et aujourd'hui, on dit tous l'inverse. Donc restons un peu humbles dans nos analyses par rapport à Édouard Philippe. C'est le nouvel homme fort de la Macronie, parce que effectivement, la majorité présidentielle s'est réorientée vers la droite, parce que c'est lui qui est à la manœuvre pour faire venir des élus de droite près de La République En Marche. Et voilà, maintenant on va l'écouter mercredi avec beaucoup d'intérêt, lancer l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Vous dites, Geneviève, nouvel homme fort qu'il va devoir porter, donc c'est mercredi, Patrice Moyon, le discours de politique générale, les grandes réformes à venir. Alors je cite, l'assurance chômage, les retraites, le plan pauvreté, le revenu universel d'activité. Est-ce que ce sont des mesures qui sont susceptibles de séduire les électorats plutôt de droite qui vont avec armes et bagages désormais chez Emmanuel Macron?
Tout dépend de ce qui sera décidé. Tout dépendra des arbitrages. Hein. Pour les retraites, est-ce qu'on va vers un allongement de la durée du travail, comme ça a été envisagé avec une décote entre 62 et 64 ans? Sur l'assurance chômage, quels vont être les arbitrages? Donc, je pense que Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont essayer de marcher sur leurs deux pieds, c'est-à-dire un pied à droite, un pied à gauche, donc d'avoir une sensibilité un peu sociale et en même temps des réformes économiques.
Yasmina Jaffar, ça marche toujours.
Oui, complètement.
Ouais. Et d'aller le plus vite possible.
Oui, le plus vite possible.
Que dites-vous, François? Pourquoi vous dites ça, François Dansival?
Je dis ça parce qu'ils ont besoin d'accélérer, étant donné qu'on voit bien, aujourd'hui, on commence à voir des résultats de ce qui a été décidé il y a 2 ans et au-delà. Et ils ont besoin d'avoir des résultats la veille de la présidentielle, qui est tout de même dans 3 ans. Ça va très vite.
Yasmina Jaffar, sur cet aspect des choses, l'accélération. On avait dit que ce pays était en panne, 6 mois de crise des Gilets jaunes, et nous sommes repartis de plus belle comme si rien ne
s'était passé. Il y a aussi des voyages dans le calendrier d'Emmanuel Macron qui sont installés et instaurés. Je crois qu'il part en Suisse cette semaine, et à la fin de la semaine, il y a un voyage au Japon, même dans ce mois-ci, pour le G quelque chose, c'est le G20, à Osaka.
20.
Voilà, j'ai 20. Exactement. Donc, il y a une volonté de faire oublier tous ces mois autour des Gilets jaunes et de reprendre la main. Là, c'est clair et net.
20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Cher Latifah Ben Ziaten, vous venez de subir une nouvelle blessure. Emmanuel Macron apporte ce soir sur Twitter son soutien à la mère de la première victime du terroriste Mohamed Merah. Elle a découvert des tags sur son logement, des inscriptions antisémites et des menaces. Les auteurs de ces actes odieux seront punis, assure le président de la République. La présidente du groupe LR à la mairie de Paris et la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoux, annonce qu'elle quitte à son tour le parti Les Républicains. Elle dit soutenir Emmanuel Macron dans une interview diffusée ce soir sur le site du Figaro. Départ qui fait suite à celui de Valérie Pécresse la semaine dernière et à la tribune de 72 élus locaux qui disent à présent soutenir l'action du gouvernement. Il y a au moins un mort à New York après le crash d'un hélicoptère sur le toit d'un immeuble de Manhattan ce soir. Premier bilan donné par les pompiers, l'appareil aurait tenté un atterrissage d'urgence sur ce building d'une 50aine d'étages en plein centre-ville. 2 mois pile après l'incendie de Notre-Dame de Paris, la cathédrale va accueillir sa première messe. Ce sera le week-end prochain dans une chapelle de l'édifice qui n'a pas souffert du sinistre. Elle se fera donc en comité restreint, célébré par l'archevêque de Paris, avec quelques fidèles et quelques religieux, et tout le monde devra porter un casque de chantier. Tony Parker est sans aucun doute le plus grand joueur de l'histoire du basket français, d'après le journaliste spécialisé Georges Eddy. Il salue sur France Info le magnifique parcours d'excellence de Tipeee qui annonce prendre sa retraite à 37 ans. Il a remporté 4 titres de NBA aux États-Unis et un titre de champion d'Europe avec l'équipe de France.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, le discours de politique générale d'Edouard Philippe, attendu mercredi, mais pour dire quoi aux Français ? Interrogé sur la recomposition politique dont nous parlons, qui a suivi donc les européennes, le député de La République En Marche du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin, qui était l'invité du 19-20 politique de France Info avec Jean-Jérôme Bertolus et Gilles Bornstein, eh bien, a évoqué une réforme très attendue, celle de la PMA.
Je vais vous faire un pari. Quand nous aurons voté la PMA pour toutes, vous me direz que est-ce qu'il n'y a pas un déport à gauche parce que c'est effectivement plutôt une mesure sociétalement de gauche. Ça suffit de savoir si La République En Marche est plus à droite ou plus à gauche. Nous avons dépassé ces clivages. La République En Marche répond aux problématiques concrètes des Français.
François Dorcival, cette PMA, c'est un texte susceptible de remettre un peu de gauche dans le moteur du gouvernement ?
C'est surtout une manière de rassurer une partie, en effet, de l'électorat de gauche ou d'extrême gauche et de crisper les relations avec la droite conservatrice.
Oui. Oui, c'est une tactique plus qu'un projet de société, selon vous.
Oui, écoutez. Quant à la tactique politique, ce projet de société, il existe depuis l'élection d'Emmanuel Macron et même avant. Il a lancé toute une enquête sur la bioéthique, il a nommé des commissions, il a créé des sortes d'états généraux sur la bioéthique et donc devait arriver ce projet de loi sur la PMA. Ce projet de loi, il a été déjà très retardé. Il a été retardé dès l'année dernière, avant même la crise des Gilets jaunes. Il a été retardé ensuite à cause de la crise des Gilets jaunes, puis à nouveau en raison du scrutin européen. Et donc, il nous était annoncé pour le mois de juillet, ce sera peut-être pour la fin de l'année, etc. On voit bien à quoi ça sert. Ça sert à agiter notre société, à agiter ses forces politiques opposées. Et donc, on voit bien aussi l'intérêt que cela a pour le gouvernement.
Yasmina Jaffar, c'est aussi un vrai texte. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que ça a été reporté. Stanislas Guérini, qui est le délégué général de l'AREM, lui souhaiterait que le texte soit soumis au Parlement avant la fin de l'année. Mais est-ce qu'il faut le dissocier de la loi bioéthique et le reporter, le texte sur la PMA, après les municipales?
Oui.
Alors, et avant les régionales.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a de la tactique et c'est reporté depuis un moment pour ne pas justement froisser les uns ou les autres ou une partie de la droite qui pourrait paraître du côté de séduite par Monsieur Bellamy dans son discours. Et mais on s'est rendu compte aux dernières élections que finalement la droite repliée sur elle-même ou qui a pas forcément envie de ce genre d'avancée est en fait diminue peau de chagrin est assez petite. Donc là, je pense qu'il va plutôt prendre les choses en main et sur d'autres réformes comme vous parliez tout à l'heure des deux jambes. Celle du chômage, par exemple, c'est aussi une façon de parler à ceux qui représentent aujourd'hui les Gilets jaunes ou ceux qui gagnent pas énormément d'argent, avec par exemple une volonté à 74%, les Français sont d'accord pour la réduction du chômage pour les gros revenus, à la, vous savez, la dégressivité des gros revenus. Oui. Ça a vraiment un impact chez les Français, donc il fait en sorte d'intéresser les uns et les autres. Son côté social n'est pas complètement perdu.
Mais quoi, ça c'est
perdu.
Le vrai sujet, et puis le reste c'est de la mousse ? Non, quand même.
Non, absolument pas, mais en tout cas il essaye de parler à tout le monde, donc la tactique politicienne, elle est là absolument et elle va durer encore pendant 3 ans.
Geneviève Göttinger, vous évoquez...
Oui, la dégressivité des allocations chômage pour les 4, c'est un scandale absolu en fait. Hein. Pardonnez-moi, parce qu'ils cotisent davantage, ils ont un régime qui est à l'équilibre, c'est purement démagogique.
Mais est-ce qu'il faut que la PMA soit dans l'agenda des prochaines réformes à venir, selon vous ?
C'est une promesse du président de la République, donc oui, bien évidemment, il faut que ce soit à l'agenda des prochaines semaines, bien évidemment.
Patrice,
il faut qu'il
tienne
ses promesses.
Alors effectivement, c'est une promesse, mais alors on va se retrouver avec un calendrier parlementaire extrêmement chargé et dans un contexte aussi économique très incertain. Donc Emmanuel Macron accélère, il veut faire passer le maximum de textes. Après, reste à savoir ce qui va se passer et comment la société va réagir.
Vous diriez que le président de la République, le gouvernement ont pris du retard, 6 mois de crise des Gilets jaunes,
c'est une parenthèse. C'est absolument rien passé pendant 6 mois. Tous les samedis, on a absolument mangé les médias et toute notre attention. Donc oui, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire oublier surtout, de redorer son image. Parce que là, tous les deux, Édouard Philippe et lui, sont partis un petit peu à la hausse avec un point de plus seulement, mais 33% d'opinion favorable.
Disons que ça ne baisse plus.
Voilà. Alors que on est derrière un échec européen, et donc il y a quand même une volonté de faire oublier ce qui s'est passé et d'exister sur la scène internationale avec les différents voyages dont je parlais tout à l'heure, et d'exister sur la scène nationale en faisant entendre que maintenant l'homme fort de la droite c'est lui, et il a dit très clairement qu'il laissera faire son premier ministre. On verra si dans les faits c'est le cas, mais le duo aujourd'hui c'est la réalité du château.
Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même comment se positionner un certain nombre de députés LR déjà. Mercredi, au moment du vote de confiance sur la déclaration de politique générale, est-ce que certains vont s'abstenir? Est-ce que tous vont voter contre la confiance au gouvernement? Et puis, lors d'un certain nombre de votes ensuite sur certains textes, comme les retraites, comme l'allocation au chômage, est-ce que là encore, ça va être l'occasion d'introduire des points de dissension dans son opposition?
Pour conclure, François Dorcival, ce sera un jour important dans ce quinquennat, ce qui va se passer mercredi ou pas?
C'est toujours une étape. C'est toujours une étape dans la mesure où, effectivement, on a eu les déclarations du président de la République le 25 avril, lançant la deuxième partie de son mandat. Maintenant, c'est au Premier ministre de l'appliquer. Et donc, on attend, en effet, les déclarations d'Édouard Philippe. Elles seront évidemment importantes dans le débat politique.
Et on attend aussi le nouveau numéro de Valeurs Actuelles.
Qui portera sur les fractures françaises.
Les fractures françaises à la une de Valeurs. Avec vous, Patrice Moyon, la une de Ouest-France.
Un entretien avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur l'intégration des enfants handicapés.
Et Yasmina Jaffar sur le site LaRucheMedia.com.
Un peu de littérature sur notre frénésie à la consommation autour du livre White de Bret Easton Ellis, écrit par le théoricien des médias Bertrand Névin.
Et merci à vous également, Geneviève Götzinger. Merci à tous les quatre. Pour ma part, je vous dis à demain soir, prochaine édition Désinformé de France Info. Bonne soirée.